Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulaillers dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part. Mais l'appellation de jardin confirmait celle de villa. De plus, mon oncle avait décoré du titre de bonne une paysanne à l'air égaré qui venait l'après-midi laver la vaisselle et parfois faire la lessive, ce qui lui donnait l'occasion de se laver les mains. Nous étions ainsi triplement rattachés à la classe supérieure, celle des bourgeois distingués. Devant le jardin, des champs de blé ou de seigle assez pauvrement cultivés et bordés d'oliviers millénaires. Derrière la maison, l'épinède formait des îlots sombres dans l'immense garrigue qui s'étendait par monts, par vaux et par plateaux jusqu'à la chaîne de Sainte-Victoire. L'abbaye de Neuve était la dernière bâtisse au seuil du désert, et l'on pouvait marcher pendant 30 kilomètres sans rencontrer que les ruines basses de 3 ou 4 fermes du Moyen-Âge et quelques bergeries abandonnées. Nous allions dormir de bonne heure, épuisés par les jeux de la journée, et il fallait emporter le petit Paul, mou comme une poupée de chiffon. Je le rattrapai de justesse au moment où il tombait de sa chaise en serrant dans sa main crispée une pomme à demi rongée ou la moitié d'une banane. En me couchant à peine conscient, je décidai chaque soir de me réveiller à l'aurore, afin de ne pas perdre une minute du miraculeux lendemain. Mais je n'ouvre les yeux que vers 7 heures, aussi furieux et grommelant que si j'avais manqué le train. Alors j'appelai Paul, qui commençait par grogner lamentablement, en se retournant vers le mur. Mais il ne résistait pas à l'ouverture de la fenêtre, soudain resplendissante au claquement des volets de bois plein, tandis que le chant des cigales et les parfums de la garrigue emplissaient d'un seul coup la chambre élargie. Nous descendions tout nus et nos vêtements à la main. Mon père avait adapté un long tuyau en caoutchouc au robinet de la cuisine. Il sortait par la fenêtre et venait aboutir à un bec de lance en cuivre sur la terrasse. J'arrosais Paul, puis il m'inondait. Cette façon de faire était une invention géniale de mon père, car l'abominable toilette était devenue un jeu. Elle durait jusqu'à ce que ma mère nous cria par la fenêtre « Assez ! Quand la citerne sera vide, nous serons obligés de partir !» Après cette effroyable menace, elle fermait irréparablement le robinet. Nous avalions très vite les tartines avec le café au lait et alors commençait la grande aventure. Il était défendu de sortir du jardin, mais on ne nous surveillait pas. Ma mère croyait que la clôture était infranchissable. Ma tante était l'esclave du cousin Pierre. Mon père allait souvent au village pour les commissions ou dans la colline pour herboriser. Quant à l'oncle Jules, il passait en ville 3 jours par semaine car il n'avait que 20 jours de vacances. Et il les avait répartis sur 2 mois. C'est ainsi que, livrés le plus souvent à nous-mêmes, il nous arrivait de monter jusqu'aux premières pinèdes. Mais ces explorations, le couteau à la main et l'oreille aux aguets, se terminaient souvent par une fuite éperdue vers la maison, à cause de la rencontre inopinée d'un serpent boa, d'un lion ou d'un ours des cavernes. Nos jeux furent d'abord la chasse aux cigales, qui suçaient en chantant la sève des amandiers. Les premières nous échappèrent, mais nous fûmes bientôt d'une adresse si efficace que nous revenions à la maison entourés d'un halo de musique, car nous en remportions des douzaines qui continuaient à grésiller dans nos poches tressautantes. Il y eut ensuite la capture des papillons, des sphinx à 2 queues et aux grandes ailes bordées de bleu qui laissaient sur mes doigts une poudre d'argent. Pendant plusieurs jours, nous jetâmes des chrétiens aux lions, c'est-à-dire que nous lancions des poignées de petites sauterelles dans la toile endiamantée des grandes araignées de velours noir, striées de raies jaunes. Elles les habillaient de soie en quelques secondes, perçaient délicatement un trou dans la tête de la victime et la suçaient longuement avec un plaisir de gourmet. Ces jeux enfantins étaient entrecoupés par des orgies de gomme d'amandier, une gomme rousse comme du miel, friandise sucrée et merveilleusement gluante, mais fortement déconseillé par l'oncle Jules, qui prétendait que cette gomme finirait par nous coller les boyaux.